durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons la lutte intégrée contre les ravageurs des plantes exotiques. Nous sommes à Villers-les-Nancy avec le chargé de mission lutte intégrée et aménagement scénographique du jardin botanique Jean-Marie Pelt.
Durablement vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr.
Christian Willick, bonjour.
Bonjour.
Christian Willick, on est là, je disais, dans le local de travail. Alors c'est une serre. Derrière vous, il y a des poubelles. Vous allez nous expliquer brièvement à quoi ça sert. Il y a aussi des établis où j'imagine que c'est là où on rempote. Il y a beaucoup de pots de fleurs. En deux mots, les poubelles, ça sert à quoi?
Alors les poubelles, elles sont là temporairement. C'est la préparation de la terre qui va permettre de renouveler les plantations dans le bassin de la serre à Victoria.
Mais ce n'est pas le sujet du jour.
Non, c'est pas le sujet du jour.
On ne va pas parler du sujet des poubelles. Le sujet du jour, Christian Bélix, c'est la lutte intégrée. Ça veut dire quoi?
La lutte intégrée, c'est un moyen de lutte contre les ravageurs des cultures qui fait appel à des auxiliaires qui sont des organismes qui naturellement sont prédateurs des organismes qui ravagent nos plantes.
Alors évidemment, on a tous fait un petit peu de sciences naturelles à l'école, Christian Bélix, mais je ne suis pas sûr que les termes de ravageurs, d'auxiliaires, de proie, tout ça soit très clair pour tout le monde.
Ravageurs, c'est toutes ces petites bêtes qui font des ravages dans les cultures. Donc on a conservé le terme, même s'il n'est pas vraiment très, très gracieux, mais voilà, ça regroupe tout ce qui est cochenille, puceron, trips et toutes ces petites bêtes, les chenilles, etc., qui viennent faire des dégâts dans les cultures. Les auxiliaires, ça c'est une vision aussi culturelle, c'est-à-dire que c'est toutes les petites bêtes qu'on peut utiliser, qui deviennent donc nos auxiliaires dans les cultures pour lutter contre les ravageurs. Et puis prédateurs et proies, voilà, c'est le lion et la gazelle, c'est l'aigle et le petit oiseau. Enfin, voilà,
et on est toujours la proie, quelque part, d'un prédateur qui lui-même est peut-être la proie de notre prédateur, sauf ceux qui sont tout en haut de la chaîne alimentaire.
Tout en haut, ceux qui sont tout en haut ont aussi des problèmes avec des parasites, avec d'autres choses qui les régulent aussi. Il y a un équilibre.
Alors on parle de lutte intégrée, pourquoi ?
Alors on parle de lutte intégrée parce que l'objectif en particulier, là, moi je peux parler de ce qui se passe dans les serres qui sont des milieux complètement fermés. On essaye d'intégrer des auxiliaires pour réguler en permanence nos populations de ravageurs. C'est-à-dire que l'objectif est d'arriver à un équilibre. Ça, c'est l'absolu. C'est d'avoir dans nos serres un équilibre entre les ravageurs et les proies, ce qui fait que les ravageurs ne sont plus problématiques. Ils restent présents, mais ils sont régulés par les prédateurs.
Si vous ne cherchez pas, vous ne cherchez pas à les éradiquer complètement?
Non, on n'a plus du tout la même approche que quand on faisait de la lutte chimique. La lutte chimique, c'est les pesticides, y a un esprit d'éradication de la bête malfaisante. De la peste, voilà. Et donc, on n'a plus du tout cet esprit-là. Ce qu'on veut, c'est que tout le monde puisse vivre en équilibre et que ça ne nous pose pas de problème, que nos plantes soient en bonne santé. Dans la nature, elles sont toujours confrontées à toutes sortes d'organismes qui les attaquent, mais qui sont eux-mêmes régulés par d'autres organismes. Donc ça ne pose finalement pas de problème. Il n'y a qu'une plante vraiment malade, enfin affaiblie dans la nature pour d'autres raisons environnementales, climatiques ou autres, qui va être vraiment détruite par des ravageurs. Mais sinon, il n'y a pas de... Les plantes se maintiennent en fait depuis des millions d'années.
Sauf qu'on ait besoin de produits chimiques. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans les serres ici au jardin botanique Jean-Marie Pelt à Nancy, Christian Willick, il y a des ravageurs qui sont présents, il y a des cochenilles, alors évidemment, j'ai
des pucerons,
merci.
Voilà, des
mais ils sont présents, pour autant, ils ne font pas de ravages.
Voilà.
Grâce à vous.
Mais il y a des phases où ils se multiplient. pour des raisons climatiques, pour des raisons d'erreurs de culture, ça peut être, mais c'est rarement le cas, d'apport de nouvelles plantes. Enfin bon, il peut y avoir des conditions qui favorisent la multiplication d'un ravageur. Alors c'est quand la chaîne de présence, la chaîne de prédation est rompue, en particulier hein, que les conditions climatiques, par exemple, ne sont plus favorables à l'auxiliaire. Auquel cas, le ravageur, lui, va se multiplier. Donc, à ce moment-là, on réintroduit des auxiliaires pour tenter de rééquilibrer la chose, revenir à la population
à cet équilibre que vous évoquiez. Voilà. Alors, on ira voir très concrètement dans les serres comment ça se passe, parce que là, c'est pour l'instant encore un peu théorique, mais on verra que, eh bien, ce sont des pratiques très physiques. Hein, voilà. Vous êtes confronté à combien d'espèces de ravageurs, Christian Bullic, ici dans les serres? Est-ce que vous le savez d'abord?
D'espèces précisément, c'est pas toujours facile de déterminer exactement quelle est l'espèce du ravageur à laquelle on est confronté. On parle plutôt de types. Donc on a des plus. Là, on a peut-être une demi-douzaine de types de ravageurs. Après, dans chacun de ces types, il y a plusieurs espèces qui vont être plus ou moins polyvalentes, plus ou moins spécialisées sur tel type de tel groupe de plantes ou autre. Par exemple, il y a des cochenilles spécifiques des agrumes. Il y a aussi des acariens spécifiques qui se mettent dans les bourgeons des agrumes. Donc là, on a des, on pourrait faire la comptabilité des espèces, mais moi, j'ai jamais fait. Donc, mais je dirais que on a au moins 30 ou 40 espèces différentes de ravageurs qui nous posent problème dans les serres.
Après tout, on pourrait faire un parallèle, Christian Bullic, entre les ravageurs que vous évoquez et les adventices ou les mauvaises herbes. Finalement, ce sont des animaux qui sont présents sur les végétaux parce que c'est leur milieu de vie.
Oui, tout à fait.
Et ça gêne personne, si ce n'est l'homme.
Ah ben ça nous gêne, nous, parce que on veut que nos plantes, on se donne du mal pour que nos plantes soient en bonne santé et dans les meilleures conditions. Mais effectivement, pour la problématique pour ce qui est des serres, c'est qu'on a sorti des plantes de leur environnement naturel, dans lequel elles trouvaient l'équilibre et les conditions environnementales optimales, et on les met dans les meilleures conditions possibles qu'on puisse faire chez nous. Mais chez nous, il n'y a pas le soleil des tropiques, il n'y a pas les variations automatiquement climatiques qui est optimale, etc. On peut se donner beaucoup de mal, et pourtant les plantes ne sont quand même pas dans les conditions qui leur garantissent d'avoir elles-mêmes la meilleure résistance, d'une part aux ravageurs, et d'autre part la présence d'auxiliaires naturellement qui naturellement viennent les aider.
Alors, on parle de lutte intégrée, Christian Bullic, on va bien sûr aller dans les serres. Pour autant, derrière vous, là-bas, sur une petite table, je vois un pulvérisateur. C'est pas très lutte intégrée, ça?
Alors, c'est pas très lutte intégrée. Déjà parce que, on a abandonné depuis maintenant des années toute lutte chimique. Donc, on est en bio, en quelque sorte. Malgré tout, on utilise des pulvérisateurs qui nous permettent de traiter sur des ravageurs pour lesquels on n'a pas d'auxiliaire. Ça, c'est, on n'a pas des solutions pour tout. En particulier, nous qui avons des plantes très très diversifiées, on se retrouve parfois avec des ravageurs qui sont très spécifiques à telle plante et contre lesquels on n'a pas d'auxiliaire.
Un beau jour.
Et qu'on découvre un beau jour, oui, parce que une plante ramenée d'une mission de prélèvement, enfin d'études dans la nature, on a récupéré une bouture pour la conserver en culture, donc ça s'est répandu dans différents jardins botaniques, on conserve les plantes comme ça, c'est un autre sujet, hein, tous les échanges qu'il peut y avoir entre les jardins botaniques, on peut récupérer comme ça un déprédateur, un parasite qui est vraiment spécifique à telle espèce de plante ou tel genre, qui a vraiment un spectre très réduit.
Et donc, alors le pulvérisateur, vous ne m'expliquez pas la présence de ce pulvérisateur.
Alors, j'y viens. En l'occurrence, on a eu, je vais vous donner un exemple, on a eu l'apparition d'une cochenille dans la serre tropicale qu'on n'avait jamais eue, qu'on ne savait pas identifier. On a essayé de la faire identifier par des spécialistes qui ne nous ont pas donné de solution, de réponse précise. Mais on a réussi à voir quelqu'un qui avait déjà été confronté à cette cochenille et qui avait trouvé qu'un auxiliaire qu'on utilisait pour une autre cochenille était aussi efficace sur celle-ci. Donc ça a pris du temps entre la découverte de l'infestation et la réponse aux questions. Et entre-temps, il a fallu qu'on maintienne quand même la population de ces cochenilles. Donc à ce moment-là, on les vaporise au savon et à l'alcool. Et voilà, ça les calme un peu.
C'est de la quasi-chimie naturelle, quoi, on va dire.
Oui, donc ça n'a pas de gros impact sur le milieu.
Durablement vôtre, Eric Mutchler.
Les pesticides sont arrivés, et par malheur tout est pollué. L'air et les champs contaminés, et les beaux mecs stérilisés. Les pesticides, c'est du suicide.
Fini les légumes de naguère.
Fini les légumes de naguère.
Les vers de terre sont en enfer.
Les vers de terre sont en enfer. Pour produire plus, on tue la terre. Le tout chimique, c'est fantastique. Le tout chimique, c'est fantastique. Mais c'est toxique. Faites attention, ils sont partout, dans les brocolis, dans les choux, et même dans nos plus beaux cépages, ils détruisent les espèces sauvages. Les pesticides, c'est du suicide.
Fini les truites de naguère.
Fini les truites de naguère.
Elles sont polluées toutes nos rivières.
Elles sont polluées toutes nos rivières. Pour produire plus, on tue la mer. Le tout chimique, c'est fantastique. Le tout chimique, c'est fantastique. Mais c'est toxique. Des herbicides dans les jardins. Des fongicides sur le raisin. Insecticides dans les maisons. Nous avons perdu la raison. Les pesticides, c'est du suicide.
Fini l'air pur de naguère.
Fini l'air pur de naguère.
Pour nos poumons, c'est la misère.
Pour nos poumons, c'est la misère. Pour produire plus, on pollue l'air. Le tout chimique, c'est fantastique. Le tout chimique, c'est fantastique. Mais c'est toxique. Les OGM vont arriver, et par magie tout va changer. On va nourrir toute la planète, les marchands de graines sont à la fête. Les pesticides, c'est du suicide.
Fini les légumes de naguère.
Fini les légumes de naguère.
Pour les abeilles, c'est la galère.
Pour les abeilles, c'est la galère. Et pour nous tous, c'est le cancer.
Nous sommes toujours au Jardin botanique Jean-Marie Pelt à Nancy. Avec vous, Christian Willig, chargé de mission, notamment lutte intégrée. On vient de pousser une porte d'une... Moi, je veux dire une petite serre, évidemment, par rapport à celle que l'on trouve ici au Jardin botanique, mais c'est déjà une vraie serre. Expliquez-nous l'endroit où nous sommes.
Alors, nous sommes dans une serre qui est consacrée à la conservation des plantes menacées des mascareignes.
C'est-à-dire
les îles qui se trouvent à l'est de l'Afrique, qui comprennent notamment l'île de la Réunion, les Seychelles, Maurice, etc. Madagascar, je crois, en fait partie aussi. Voilà. Donc, c'est des îles, donc des milieux avec beaucoup d'endémisme et avec beaucoup d'impact humain et beaucoup de plantes menacées.
Endémisme, en deux mots.
Endémisme, ça qualifie un organisme qui ne vit qu'à un endroit restreint. naturellement qu'à un endroit restreint.
Il est de là-bas, quoi.
Il est de là-bas et uniquement de là-bas. Donc si on le supprime là-bas, il est nulle part.
Alors cette serre-là n'est pas ouverte au public ?
Non, c'est fait partie des serres de collection.
De collection, Christian Willig. Et on est là aussi, puisqu'on parle de lutte intégrée, eh bien, précisément que vous nous montriez très concrètement comment ça fonctionne. Alors, vous parliez tout à l'heure aussi de la capacité des plantes à se protéger elles-mêmes quand elles sont dans leur milieu naturel. Là, le moins qu'on puisse dire, même si la température, on imagine qu'elle est le plus proche possible de leurs conditions naturelles, on ne peut pas dire que les pots dans lesquels elles ont leurs pieds soient très naturels.
Non, évidemment, là, on a cultivé les plantes en pot, donc effectivement, ça n'a rien de très naturel. On n'a jamais le volume de terre auquel elles ont accès quand elles sont dans la nature. Mais on essaye d'avoir le climat le plus proche possible de leurs besoins. Là, on a des cycas qui sont des plantes essentiellement africaines et asiatiques. Et
ça ressemble à quoi, si on voulait expliquer?
Ça ressemble à un palmier, mais ce n'est pas un palmier. Voilà. Ça comprend notamment le sagoutier qui est cultivé pour un usage alimentaire dans les îles tropicales du Pacifique, que je crois, mais là vous m'en demandez un peu beaucoup. Ces cicas sont extrêmement sensibles aux cochenilles farineuses. Pas que, mais vous voyez ces petites bêtes blanches,
taches
poilues là.
Voilà,
ça c'est des petites cochenilles qui piquent la plante pour se nourrir de leur sève.
Et donc on a aussi. C'est l'insecte qui vient.
Effectivement qu'on voit ici. Là, vous avez une cécétia, c'est-à-dire des cochenilles à carapace qui piquent aussi la sève pour se nourrir piquent la plante pour se nourrir de la sève.
Alors, est-ce que cette cochenille-là, Christian Willig, est venue avec la plante quand vous l'avez reçue, ou est-ce qu'elle est elle-même locale d'ici?
Alors, c'est plutôt local d'ici. C'est des cochenilles qu'on peut trouver aussi bien sur nos plantes d'appartement. Elles sont polyvalentes. Elles s'attaquent à toutes sortes de plantes. Elles aiment bien les cicas parce que elles vont pondre, vous voyez, sur la base, sur le tronc, là. Il reste des vestiges des anciennes feuilles qui font comme des écailles. Et ça leur permet aux cochenilles d'aller pondre, là, bien à l'abri, entre les écailles de la plante. Donc, elles sont toujours présentes là à l'état d'œuf. Et c'est très difficile de les éliminer. On sort ces plantes-là au printemps, dès qu'on n'a plus de risque de geler. Et à ce moment-là, naturellement, elles trouvent des conditions bien meilleures. Et oui, voilà, ça c'est une cochenille, oui.
Alors, on dit que c'est une cochenille. En fait, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à une espèce de petite puce, plein de poils blancs. Je sais pas trop si elle marche en avant ou en arrière.
Parce qu'en fait, ces poils, c'est des cires, c'est des sécrétions. C'est un qui l'entoure comme ça.
Ah oui, c'est pas
des poils. Et qui la camoufle. Non, ce ne sont pas des poils. Sinon, c'est une minuscule chenille très courte, si vous voulez.
C'est un piège, Christian, un mâle ou une femelle?
Très certainement une femelle, les mâles sont volants.
Bon, vous connaissez son prénom?
Celle-ci, Gertrude, je crois.
Donc celle-là va piquer la, ne va pas pondre sur la fleur et sur la feuille, mais va piquer pour se nourrir.
Oui, la cochenille pique la plante pour se nourrir de la sève. Et elle va pondre.
Les filaments blancs, ça.
C'est des sécrétions cireuses à l'éclosion, si vous voulez, la cochenille est nue. Et elle subit plusieurs métamorphoses, plusieurs mues en fait. Et à chaque fois, elle sécrète des cires de plus en plus, ces cires blanches.
Et donc là, si on n'intervient pas, il va se produire quoi pour cette pauvre?
Alors ça va se reproduire parce que une tendance à la reproduction sans accouplement, parthénogenèse. Et donc ça va envahir toute la plante, comme il n'y a personne pour les arrêter. La plante va être tellement ponctionnée de sa sève qu'elle finit par périr.
Et là, dans la nature, comment cette plante-là, de Malaisie, se défendrait?
Alors, elle se défendrait. Déjà, elle serait bien plus résistante puisqu'elle serait dans l'environnement qui lui est idéal. Donc, elle serait naturellement plus résistante. Elle peut elle-même sécréter, je m'avance, mais elle pourrait sécréter des substances qui lui permettent de lutter. De mettre les parasites en difficulté. Mais surtout, viendront d'autres organismes qui naturellement se nourrissent ou parasitent les cochenilles.
Les cochenilles. Voilà. Et c'est là qu'on en arrive à la lutte intégrée que vous pratiquez.
C'est là qu'on arrive à la lutte intégrée. C'est-à-dire on se base sur ce qui se passe dans la nature. On essaye de copier ce qui se base dans la nature. Et dans la nature, on sait qu'il y a tel et tel organisme qui s'en prennent aux cochenilles. Donc on essaye de les introduire. Traduire ces organismes qui ont les mêmes exigences climatiques que la plante et pour qu'ils luttent, pour qu'ils s'attaquent aux cochenilles.
Très concrètement, Christian Bilic, ce sont donc d'autres insectes, voilà. Du coup prédateurs, mais ça veut dire qu'il faut que vous soyez capable, mais ça j'imagine que vous le faites très bien, de connaître l'espèce ou au moins le genre, ou au moins toute la famille, du ravageur, et puis ensuite de connaître quel est son prédateur, et puis ensuite il faut le trouver et le poser là.
Oui, alors on détermine grossièrement les ravageurs auxquels on a affaire, et ça nous ouvre une perspective. On a des ouvrages de référence, ça nous ouvre une perspective d'auxiliaire utilisable. Après, nous on est client d'une entreprise qui élève des auxiliaires. C'est des grosses sociétés très très spécialisées. Et on a un technico-commercial qui est notre conseiller et qui nous aide à orienter nos moyens de lutte vers des auxiliaires, tel auxiliaire ou tel autre, parce qu'il va être dans ces conditions-là plus favorable, plus efficace que tel autre.
On dira deux mots sur ces entreprises, Christian Bilic. Là, très concrètement, sur ce SICA, on a vu les cochenilles farineuses.
Cochenilles farineuses, oui.
Comment vous luttez là, concrètement, là, tout de suite?
Alors, on passe commande de l'auxiliaire. En l'occurrence, c'est une petite coccinelle asiatique qui est absolument pas capable de survivre sous nos climats, mais qui dans les serres va trouver son optimum. Et cette petite coccinelle, à l'état adulte, mange les cochenilles et pond sur les plantes sur lesquelles il y a des cochenilles. Et la larve de cette coccinelle mange aussi les cochenilles. D'ailleurs, elle leur ressemble, c'est assez intéressant. Donc on reçoit soit des boîtes contenant des petites coccinelles adultes qu'on va lâcher, jeudi on en recevra là, et soit on reçoit les larves qui nous arrivent dans des petites bandes de carton ondulé.
Et les larves, on en a ici.
Voilà, oui, voilà une petite bande.
Il y en a une aussi là-haut, tiens.
Il y en a une là-haut, voilà. Donc on dispose ces petites bandes le feuillage.
On va expliquer en deux mots, Christian Bilic, c'est un petit morceau de carton ondulé.
Voilà, c'est une
lanière de un centimètre de large.
Voilà, petite bande de carton.
Quinzaine de
10 centimètres de long.
Comme une guirlande.
Voilà, et les larves, pour le transport, se nichent dans les ondulations du carton. Donc nous, on accroche ces petites bandes de carton dans le feuillage de la plante qui est parasitée les larves après de l'auxiliaire se répandent et se nourrissent. Après arrivent à maturité, se métamorphosent, donnent des adultes qui viennent répondre sur le site, etc.
Pardonnez-moi si je suis un peu brutal, Christian Bilic, ça marche ?
Bien sûr. Sinon, on ne ferait pas. Ça dépend de ce qu'on entend par marché. C'est-à-dire qu'on est bien d'accord qu'on ne va pas avoir une éradication définitive et totale, encore certainement pas définitive. C'est pas le but. C'est pas le but. Le but, c'est qu'il s'établisse un équilibre entre le ravageur et son prédateur, c'est-à-dire notre auxiliaire. Et donc, on maintienne les populations de ravageurs présente, mais un état où elle ne ravage rien, c'est-à-dire qu'il n'y a que juste quelques individus et ça ne pose pas de problème à la plante.
On n'éradique pas la biodiversité, au contraire, on la maintient, voilà. Mais dans des conditions qui, pour l'homme, en l'occurrence pour vous, et pour le jardin botanique, soient acceptables.
Voilà, on a toute satisfaction d'avoir des plantes en parfaite santé sans qu'il y ait destruction. C'est utopique, en fait, de vouloir détruire le ravageur, ça n'existe pas, la chimie n'est jamais parvenue. Hein.
Et puis qui est le ravageur, hein, du coup, hein. Oui. Ça veut dire aussi, Christian Bilic, que lorsque les prédateurs ont fait leur travail, ils disparaissent eux-mêmes, ou en tout cas, ils se mettent en équilibre avec la quantité d'aliments disponibles que sont les ravageurs.
Le but, c'est justement qu'ils ne disparaissent pas, mais qu'un équilibre de prédation se fasse. C'est-à-dire que le nombre de prédateurs qui restent, d'auxiliaires qui restent à terme, soit suffisant et pérenne pour maintenir la population de ravageurs à un seuil très bas.
Durablement vôtre, Eric Mutschler.
guess I'm sailing away in the morning. Is there something I can send you from across the sea? From the place where I'll be landing.
No, there's nothing you can send me, my own true love. For there's nothing I'm wishing to be owning. Just to carry yourself back to me, I'm spoiled. From across that lonesome ocean. Sweet kiss. For that's all I'm wishing to be on.
Well, I might be gone a long, long time. It is only that I'm asking. Is there something I can say to remember me by? To make your time more easy passing.
Oh, how can you ask me again? For it all. Same thing I would want to be.
Christian, il dit qu'on a changé de serre, on n'est plus vraiment là dans un milieu tropical, mais vous qui vous occupez ici au Jardin botanique Jean-Marie Pelt-Annoncy, notamment de lutte intégrée, c'est aussi votre domaine d'intervention.
Oui, oui, tout à fait. On est ici dans la serre dite serre Pelargonium, donc on a la collection notamment de perlargonium que tout le monde appelle géranium, et là on a essentiellement des formes botaniques, donc c'est des plantes d'Afrique du Sud, hein, avec une très très grande diversité et qui demandent un milieu frais l'hiver. Voilà. Donc ici il fait effectivement cette saison-ci plutôt frais.
Et c'est une serre également qui n'est pas ouverte au public, celle-là.
C'est toujours une serre de collection. On a les pelargoniums, on a aussi toutes les plantes insectivores de même type de climat. Et quelques autres plantes diverses, dont des Amorphophallus, Xanthedeschia, que les jardiniers peuvent connaître, qui ont aussi ces exigences climatiques.
Alors, vous avez ici, dans certains pots, Christian Willick, il y a, ça ressemble un peu à une salière, on pourrait dire ça comme ça, c'est une salière.
C'est une salière à l'origine, je pense. Oui.
Oui, parce qu'on voit effectivement le bec verseur, c'est une salière accrochée à un petit piquet qui est lui posé et fixé dans le pot. On peut le retirer ?
On peut le retirer, oui, tout à fait. Oui.
Alors, j'imagine que là, autour, il y a une étiquette avec des codes barres, etc. Mais vous allez nous expliquer très concrètement de quoi il s'agit.
Alors ça, c'est un moyen de lutte contre les pucerons. On fait appel là à ce qu'on appelle des parasitoïdes, c'est-à-dire des guêpes minuscules qui pondent dans les pucerons. Et la larve de la guêpe se développe à l'intérieur du puceron, qui est paralysé, mais vivant, jusqu'à sa maturité. À ce moment-là, le puceron meurt et devient ce qu'on appelle une momie, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une enveloppe sèche à l'intérieur de laquelle il y a la larve en cours de métamorphose. Et de là sort une petite guêpe qui va aller pondre après accouplement dans d'autres pucerons. Et donc ça, ces petites boîtes-là contiennent des momies, c'est-à-dire des pucerons morts qui contiennent encore la larve en cours de métamorphose de ces parasitoïdes. On a 5 espèces de parasitoïdes, donc qui vont avoir des exigences un petit peu différentes. Et sur ces 5 espèces, il y en a certainement au moins une qui va trouver ici ses conditions, les conditions qui lui sont favorables et les pucerons qui lui sont favorables. Et donc, on reçoit ces petites boîtes, on scotche dessus la petite baguette qui permet de la ficher, de la fixer dans les pots. Et comme une salière, hein, alors quand on la reçoit, la petite boîte est fermée. Et comme une salière, on l'ouvre sur les petits trous. Et les petites guêpes sortent et se partent tout de suite en quête de pucerons dans lesquels pondre.
Est-ce qu'on peut en voir ici ces guêpes qui sont vos auxiliaires?
Alors, il faut avoir la chance de voir ces guêpes parce qu'elles sont vraiment minuscules.
Oui, parce que quand vous dites des guêpes, en fait, oui, l'œil non exercé, ça ressemble à un tout petit bûcheron, quoi.
Ouais, ça ressemble à un petit bûcheron. C'est une minuscule.
Qu'est-ce qui permet d'ailleurs de dire que c'est une guêpe?
Ah bah ça c'est de l'entomologie. Hein.
J'ai bien fait de vous poser la question.
Oui, donc les guêpes c'est des hyménoptères, c'est ça. Et voilà, donc elles appartiennent à l'ordre des hyménoptères et donc on peut les rattacher à ça. Mais visuellement, évidemment, nous on ne peut pas se rendre compte que ce sont des guêpes. Ça n'a rien à voir avec nos guêpes rayées jaunes et noires. Hein. Et donc, une fois, ça regarde sous les feuilles des plantes.
Alors là, vous retournez consciencieusement chacune des plantes. Alors là, ce que l'on voit, par exemple,
c'est parfait. Donc là, on voit pas la guêpe, mais on voit sa présence parce qu'on a une momie, c'est-à-dire un puceron tout gris, brillant, sec, gonflé. Alors celui-ci, je pense, est ouvert. Donc la larve, la petite guêpe en est sortie.
Là, la guêpe, elle a piqué. Elle a pondu.
Elle a pondu dans le puceron.
Dans le puceron.
Voilà.
Et la larve se développe au détriment du puceron.
Et la larve se développe, voilà. Alors, chaque guêpe femelle va pondre une cinquantaine d'œufs, par exemple, et qui vont chacun donner un individu adulte, et qui ensuite vont eux-mêmes s'accoupler, ce qui fait que c'est la population s'accroît jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pucerons en suffisance pour pouvoir pondre dedans. Et à ce moment-là, le parasitoïde, le prédateur, se retrouve limité dans sa population.
Là, pendant qu'on retournait les feuilles, Christian Bidic, j'ai des pucerons qui sont montés sur ma main. Est-ce que c'est aussi comme ça que, précisément, les ravailleurs se... là, j'ai soufflé dessus,
ouais.
Mais on pourrait imaginer que j'en ai sur mon pull
et que je les emmène comme ça
d'une serre à l'autre.
Ça, c'est le risque, oui. Oui, le risque, c'est de les transférer. Bon, évidemment, il faut qu'après, on les dépose accidentellement sur une plante haute qui leur convient et dans des conditions climatiques qui leur convient. Dans cette serre où il fait frais à cette saison, les pucerons qui vont se développer sur les plantes ne sont pas les mêmes que ceux qui vont aller se développer dans la serre dans laquelle il fait 10 degrés de plus.
Est-ce que ça veut dire aussi, Christian Vic, que les ravageurs ne s'attaquent pas à n'importe quelle plante? Est-ce qu'il y a une certaine faiblesse déjà d'elle-même de la plante?
C'est-à-dire que les plantes sont plus ou moins sensibles à tel ou tel ravageur, parce qu'elles sécrètent elles-mêmes des substances qui peuvent les protéger de certains ravageurs, ou du moins limiter leurs attaques, parce qu'elles peuvent être assez coriaces pour empêcher l'insecte piqueur de percer les cellules et de se nourrir de la sève. Les plantes sont plus ou moins sensibles à tel ou tel type de parasite.
On a parfois un peu tendance, à tort sans doute, et c'est pas vous qui allez me dire le contraire, à considérer la plante comme une espèce de chose inerte. C'est la plante dans son pot de fleurs. Alors qu'en réalité, c'est un être parfaitement vivant et parfaitement dynamique, comme n'importe quel être vivant sur la Terre,
simplement. Ouais. Et sensible.
Et son rapport au temps n'est pas le même.
Ah oui, son rapport au temps et à l'espace n'est pas le même, c'est sûr.
Tiens, il s'est mis à pleuvoir tout d'un coup, mais on est quand même beaucoup mieux dans la serre. Christian Willig, je reviens sur ces petites salières. Ça veut dire qu'il y a des entreprises aujourd'hui, en Europe, dans le monde, dont le métier, c'est de cultiver des prédateurs qui vont servir précisément à la lutte intégrée.
Oui, tout à fait, tout à fait. Il y en a au moins, à ma connaissance, au moins deux en Europe. Une en Hollande, avec qui on travaille, une autre qui, je crois, est en Allemagne, mais je ne serais pas affirmatif. Ouais, puis après, il y en a aux États-Unis, il y en a un peu partout. Hein.
Et donc, en fonction des ravageurs auxquels vous êtes confrontés ici dans la serre, ou dans les serres, vous identifiez... Alors, j'imagine que c'est compliqué, ça nécessite d'avoir des connaissances assez pointues dans l'identification des ravageurs, et vous commandez l'auxiliaire qui va avec,
voilà.
Et il vous est livré par camion.
Alors, on le reçoit par la poste. Oui, c'est surprenant comme ça. Au début, c'est très surprenant, puis après, nous, on s'habitue, mais... je fais ma tournée avec les jardiniers, on regarde ce qui va, ce qui ne va pas, ce qu'ils ont pu repérer, les solutions qui ont bien marché, les solutions qu'il faudrait peut-être changer ou renforcer. Et puis je vais passer ma commande sur le catalogue par email et deux semaines après, puisque moi je commande deux semaines à l'avance, deux semaines après je reçois un colis, en général le jeudi. Une petite boîte isotherme qui contient les conditionnements dans lesquels sont les auxiliaires, qui n'a plus qu'à distribuer au bon endroit, dans les meilleures conditions. Voilà.
Durablement vôtre, Eric Mutschler.
Ooh. S'efface à jamais, quand le désert avance à coups de tempête, dans le grand esprit je place mes croyances. Je suis un Robotrack sur la ligne de Sanmore, je roule en wagon dans la nuit, qu'importe où je descendrai, ce qui va m'arriver. Je sais pas vraiment ce qui va m'allumer. Je suis un Robotrack sur la ligne de Sanmore. Je roule en wagon dans la nuit. Qu'importe où je descendrai, ce qui va m'arriver. Je sais pas vraiment ce qui va m'allumer. Ooh.
Christian me dit, comment êtes-vous arrivé à être chargé de mission, notamment lutte intégrée ici au Jardin botanique Jean-Marie Pelt à Nancy? Quel est votre propre parcours?
Ah, moi je suis un petit rescapé des cités du 9-3.
Ah oui.
Oui. Et, passionné de nature depuis tout petit. Mes parents m'emmenaient en vacances faire de la randonnée. On allait dans les bois dès que c'était possible. Voilà, ça m'a toujours passionné. Mon père était aquariophile, ça m'a amené à l'aquariologie. Voilà, on s'intéresse d'abord à la nature, on devient naturaliste autodidacte. J'ai fait une formation de forestier, donc ça m'a amené un peu à comprendre comment fonctionnaient les systèmes naturels. Et puis après, j'ai travaillé à l'aquarium de Nancy et puis maintenant ici. Et donc je mets en pratique mes connaissances en aquariologie et naturaliste. Et bon, bah voilà, c'est les petites bêtes qui mangent les petites bêtes, c'est un petit peu le même domaine, donc ça m'a amené là.
Alors aujourd'hui, vous êtes entomologue, spécialiste des insectes?
Ah non, j'irai pas jusque là, mais c'est juste la pratique de la lutte intégrée. C'est-à-dire, mes connaissances en entomologie sont très très superficielles en entomologie générale, et là j'ai plus approfondi sur le petit domaine, sur le côté pratique en fait de l'entomologie, l'application pour l'utilisation à la PBI. Mais sinon,
est-ce que vous savez d'où vous vient cet attrait? Vous disiez un rescapé du 9-3, on ne peut pas dire que ce soit l'environnement le plus favorable à l'émergence d'un ressenti pour la nature. Est-ce que vous savez d'où ça vous vient? Et en même temps, vous avez eu peut-être la chance d'avoir des parents qui vous laissent poursuivre votre intérêt pour la nature en vous laissant faire des études de foresterie, parce que peut-être là aussi que les maisons forestières, c'est pas dans le 9-3 qu'on les trouve le plus, quoi.
Non, mais c'est ce que je vous disais, c'est des parents compréhensifs sur mes pôles d'intérêt, l'immersion dans la nature dès que c'était possible pour les vacances, pour les week-ends éventuellement. On prenait le train, on allait à Ozoir-la-Ferrière, voilà, on allait se mettre dans la nature le plus facilement possible, dès qu'on avait une occasion, quoi, parce que mes parents aimaient ça. Et puis, mon père étant aquariophile, j'avais des aquariums à la maison, des terrariums, je ramenais des petites bêtes, des petites plantes, et voilà. Et mes parents voyaient ça d'un bon œil, plutôt que de traîner dans la rue et tenir les murs.
Vous avez des enfants, Christian Willig?
Oui, j'ai deux enfants, oui.
Et leur rapport à la nature?
Ils sont pas passionnés, mais ils sont très sensibles, et ils ont, puisque ma femme est aussi naturaliste, une bonne culture naturaliste de base.
L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Christian Willig, chargé de mission, lutte intégrée et aussi aménagement scénographique ici au Jardin botanique Jean-Marie Pelt à Nancy. Plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule?
J'ai déjà un gros coup de gueule. Je suis assez écœuré de voir qu'on alerte les pouvoirs publics, la population depuis les années 60, grosso modo, sur les dérives et sur les conséquences qu'auront tous nos comportements hyper-consommateurs, agrochimiques, etc., etc., et sur la biodiversité, sur l'écosystème planétaire global. Et puis voilà, c'est seulement maintenant qu'on est au bord de la catastrophe qu'on commence timidement à réagir, et ça me désespère un peu.
Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les associations, les organisations qui ont précisément tenté d'alerter l'ont mal fait? Est-ce que ce sont nos dirigeants qui sont sourds? Est-ce que c'est le public qui a d'autres préoccupations? Je ne suis pas en train de chercher un coupable, mais comment et pourquoi en est-on arrivé là?
Oh, il y a beaucoup de causes. Je pense que toutes nos associations naturalistes n'ont pas toujours su se faire entendre. Moi, je suis un impliqué dans différents organismes depuis longtemps. Et on n'a pas toujours utilisé peut-être... Enfin, je pense que si ça n'a pas marché, c'est qu'on n'a pas su se faire entendre, ça c'est certain. Ou insuffisamment se faire entendre. Mais ce n'est pas la préoccupation des pouvoirs publics, parce que dans les années 70, tout allait encore très bien. Il n'y avait pas de raison de se plaindre. Et puis après, la crise économique prime, les conditions sociales priment. Et puis les industriels qui alimentent tout ce business ont une vision à court terme. Tout le monde a une vision à court terme, en fait. Et donc, quand on alerte sur quelque chose qui va se passer dans 50 ans, on est certainement moins performant que si on dit c'est demain que ça va arriver.
Est-ce qu'on peut imaginer, Christian Willick, qu'on est ici dans un jardin botanique, en l'occurrence Jean-Marie Pelletin-Nancy, qui a aussi une vocation pédagogique, qui reçoit donc des enfants. Il y a des enfants aujourd'hui entendent parler de développement durable, peut-être encore un peu de façon conceptuelle, mais la sensibilisation aux enjeux écologiques, elle est présente. Est-ce qu'on peut imaginer que la classe politique de demain, nos dirigeants de demain, qui sont les enfants d'aujourd'hui, va changer? Ou est-ce que vous craignez une répétition de ce schéma?
De toute façon, quand on fait de la pédagogie à l'environnement, c'est les enfants qui sont les plus sensibles. Quand on accueille des groupes, qu'on fait des visites guidées, etc., il en reste certainement plus de traces chez eux que quand on s'adresse à des adultes qui ont déjà des opinions bien tranchées, qui ne sont pas toujours très ouverts. Mais... quand les enfants d'aujourd'hui seront au pouvoir, je ne sais pas s'ils auront vraiment le choix de faire autre chose que ce qu'il faut faire. Et de le faire pour la planète et pour l'équilibre planétaire.
On a passé presque une heure avec vous ici au Jardin Botanique sur la lutte intégrée. Est-ce que, parce que c'est un bon exemple finalement, quand vous parlez d'incapacité des pouvoirs publics à entendre ce discours, c'est finalement c'est culturel, c'est que voilà, on a une autre représentation que celle que l'on devrait avoir, c'est fondé sur des croyances. Est-ce que le travail que vous faites ici, Christian Willig, a des ramifications à l'extérieur? Est-ce que on peut imaginer que, je sais pas, des maraîchers, des agriculteurs de la FNSEA viennent s'intéresser à ce que vous faites ici depuis presque 20 ans en matière de lutte intégrée? Est-ce que ça a un impact? Et est-ce que c'est facile de changer de culture et de paradigme?
Alors, les agriculteurs, non, on n'a pas vraiment de... viennent pas beaucoup nous solliciter. On est vraiment très, très particuliers, nous, parce qu'on est en conditions tropicales. On a une très, très grande diversité de plantes qui ont des exigences variées. Donc, on est assez loin du monde de l'agriculture. Maintenant, les agriculteurs s'intéressent effectivement à ce qui se fait dans des jardins botaniques à l'extérieur, potentiellement. Mais... nous, on n'est pas formateurs de des agriculteurs.
Non, mais on pourrait imaginer que eux, par curiosité, viennent voir ce que vous faites.
Après, tout le monde peut venir voir.
Hein, absolument. Allez, on va terminer sur votre coup de cœur, Christian Willig.
Sur un coup de cœur, vous me prenez un peu au dépourvu. est-ce que j'ai un coup de cœur? J'ai un coup de cœur pour... peut-être, je ne sais pas si vous pouvez parler de la concurrence, mais...
Oh, mais nous n'avons aucune concurrence.
Non, un petit coup de cœur sur une petite émission que j'entends le matin très tôt sur France Inter quand je suis à peine réveillé, mais qui a une tendance à me redonner un petit coup de fouet. C'est je suis tellement peu réveillé que je me souviens pas du nom de l'émission, mais où on présente des choses positives qui se font en matière d'environnement, des initiatives pour l'environnement, pour le social, etc.
Un peu comme Durablement Vôtre, quoi.
Un peu, ça. Mais c'est très bref et c'est vraiment des initiatives de particuliers et c'est ce qui montre qu'en fait le germe est là et que la plante lève et que ça se développe. Quoi. Ça se développe avec un tas d'idées nouvelles, des concepts nouveaux, etc. et qui s'affranchissent. Des pouvoirs publics, etc., qui font le boulot, concrètement.
Est-ce que ce n'a pas été ça aussi, peut-être pendant un certain temps, Christian Willig, cette représentation un peu négative par les associations qui ont dénoncé, qui dénonçaient au lieu de finalement proposer, comme par exemple sur cette chaîne que vous indiquez, plutôt des choses positives et qui donnent envie d'y aller, quoi.
Peut-être qu'il ait fallu être effectivement plus positif plutôt que de lancer que des cris d'alarme. Il y a eu quelques propositions. Hein. L'agriculture bio, c'est quand même pas d'hier. Les approches moins consuméristes, c'est pas non plus d'hier. Mais ça n'a pas été remarqué. Peut-être que c'était pas assez flagrant, pas assez soutenu dans ces démarches-là, je ne sais pas.
Merci, Christian Willig.
Je vous en prie.
Voilà pour ce reportage sur la lutte intégrée contre les ravageurs des plantes exotiques mises en œuvre également dans les serres du jardin botanique Jean-Marie Pelt de Nancy. Avec Christian Willig, chargé de mission lutte intégrée et aménagement scénographique au jardin botanique. Pour en savoir plus, venir découvrir les collections extraordinaires aussi bien à l'extérieur que sous serre, participer aux nombreuses animations et assister aux conférences, rendez-vous sur jardinbotaniquedenancy.eu. Vous avez pu écouter dans l'ordre Alerte aux pesticides par le groupe Homo Toxicus, sorti en clip vidéo en février 2010 à l'occasion de la semaine d'alternatives aux pesticides. Boots of Spanish Leather de Bob Dylan, interprété ici par le groupe américain Mandolin Orange, paru en clip vidéo en 2014. Et enfin Le Wagon par le groupe québécois Les Charbonniers de l'Enfer, paru sur l'album Nouvelle Fréquentation, sorti en 2010. Merci à Véronique Olivier à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission de la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.